Allez-y, vous pouvez embarquer. Voilà. Là, nous sortons du port de Calelong, qui est un petit peu notre base avancée sur l'archipel de Riou. Et à votre droite, vous voyez l'île Maire, l'île Mère, ça dépend de la prononciation, qui est souvent appelée par les Marseillais, par les locaux, l'île aux chèvres. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un troupeau de chèvres. Et bon, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais jusqu'à il y a 2-3 ans, il restait quelques chèvres sur l'île.
Ville Nature. Cette promenade écologique et sonore à la découverte du territoire marseillais. Dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006, Baptiste Lanaspez invite à une série de promenades sur la commune de Marseille, entre ville et nature.
Les gens prennent ça pour un requin parce que ça fait comme un aileron qui sort de l'eau. Et en fait, ce sont des poissons lunes. Alors, en période nuptiale, ils font des gros bonds au-dessus de l'eau, c'est très impressionnant. Donc voilà, là on va s'approcher. Donc effectivement, vu de loin, ça peut faire penser à un requin, mais non, pas du tout.
Ça fait 30 cm ?
Un poisson lune, là non, il doit faire un mètre de long, tout, quelque chose comme ça.
Leur montrer.
Oui, on peut s'approcher un petit peu, mais il y a des singes qui, voilà, il y a des chances qui plongent.
Les bateaux.
Ça très vite.
Oui, généralement les bateaux, souvent les blessent,
même les
ouais.
Tuent.
Le seul moyen qu'il y a de les éviter, en fait, c'est de couler d'un coup. Arrêter le Zodiac au milieu de l'archipel de Riou à peu près là. Donc face à nous c'est Riou, ça c'est
oui,
l'île principale. Tu veux bien nommer les différentes îles qui nous entourent?
Oui bien sûr, donc là nous avons Riou qui culmine à plus de 180 mètres. Et puis Plane qui porte bien son nom. Entre les deux au fond on distingue les Conglouets, le petit et le grand. Et puis là derrière nous donc c'est Jarre et Jarron à côté. Donc c'est là aujourd'hui où les techniciens de terrain sont pour... poser des pièges à lapins, donc le lapin qui est une espèce introduite sur l'archipel et pour lesquels on lance des opérations de capture, donc peut-être qu'on en reparlera. Et puis derrière nous, donc Maire.
Alors à Maire il y a des chèvres et à Jarre il y a des lapins, c'est ça?
Voilà, alors à Maire il y avait des chèvres, maintenant il n'y en a plus, mais c'est vrai que pendant longtemps les gens ont surnommé l'île aux chèvres parce qu'il y avait un troupeau avec un gardien du troupeau. Et puis des lapins, il y en a qui ont été introduits, alors pas que sur Jarre, également sur Riou et sur Plane. Donc au départ sur Riou, c'était plus pour alimenter, pour être une source de nourriture pour les gardiens de l'île, puisque l'archipel était militaire avant, d'être rétrocédé au conservatoire du littoral en 92. Et pareil, sur Plane et Jarre, ils ont été introduits pour la chasse, mais là c'était un peu plus pour des chasses personnelles de certaines personnes locales.
Des chasses qui étaient facilitées par le fait qu'on était sur un périmètre assez réduit pour tirer le lapin
tout
sans défense.
Tout à fait. Mais bon, actuellement, on a mené plusieurs opérations de comptage et de capture, et a priori, normalement, maintenant, il n'y a plus de lapins sur au moins Plane et Jarre. Après, pour Riou, l'île a une surface tellement importante que ce soit pour les lapins, mais également pour les rats, qui est aussi une espèce introduite qui cause pas mal de dégâts à l'écosystème, on n'a pas les moyens humains et financiers pour éradiquer complètement ces espèces de l'île de Riou qui fait plus de 160 hectares.
Et pour les rats, c'est aussi l'homme qui a porté les rats à Riou.
Oui, mais alors ça, c'est beaucoup plus ancien. Ça daterait de l'Antiquité, des premiers voyages et transports de marchandises par bateau, sachant que bon, les îles ont toujours été un peu des points avancés, soit pour les échanges de... Enfin, il y avait un côté un peu sanitaire déjà d'une part, ça Lorraine pourra en parler un peu mieux que moi, tout ce qui concerne l'historique des îles, et il y avait aussi un point militaire, c'était des gardes avancés pour surveiller, et c'était également des lieux de contrebande, un peu à l'abri de toutes les polices, donc il y avait énormément de passages de bateaux, et sur les bateaux, il y a toujours eu des rats, donc voilà.
Parce que partout où il y a de l'homme, il y a des rats, c'est ça?
Oui, 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 le rat, c'est vraiment l'espèce qui est liée à l'homme et qu'on retrouve, qui suit l'homme de partout. Et là, on est sur l'archipel de Riou, mais si on va à l'autre bout du monde, si on va au Kerguelen, il y a la même problématique de l'espèce introduite des rats.
Et alors, pourquoi cette délapinisation? Parce que les lapins ont été introduits par l'homme, mais on pourrait dire que finalement, ce n'est pas gênant. Quel est le problème?
Alors le problème au niveau des rats et des lapins, il est assez complexe et il est aussi lié à un autre problème qui est la problématique goéland. C'est-à-dire que du rat et du lapin, il y en a donc eu depuis longtemps sur les archipels. Mais le problème, c'est là les surpopulations et le développement des populations de rats et de lapins qui ont été occasionnés par le développement de la population de goéland. Parce que en fait, les goélands ramènent beaucoup de choses depuis les décharges. Les goélands s'alimentent sur les décharges. Les goélands d'ici s'alimentent sur les décharges de la ville de Marseille. Ramènent tout un tas de ils ramènent des eaux de boucherie. Ils ramènent aussi des plastiques. Ils ramènent tout un tas de choses. Et grosso modo, de fil en aiguille, ça provoque un enrichissement du sol en matière organique. Et qui provoque également qui déstabilise complètement la flore locale et qui, au bénéfice des espèces qu'on appelle nitrophiles, rudérales, c'est-à-dire des espèces qui se développent rapidement, qui ont un feuillage important, alors qu'à la base, bon, sur les îles, ce sont les espèces adaptées à toutes les conditions environnementales, embrun, soleil, etc. Ce sont des espèces qui ont des pores assez petits, qui développent d'autres systèmes d'adaptation, mais qui n'ont pas forcément un feuillage important. Et toutes ces espèces, donc, qui sont des espèces qui se développent grâce à l'enrichissement en nitrates du sol, donnent une alimentation supplémentaire, augmentent la biomasse végétale et donne plus à manger grosso modo aux rats et aux lapins qui se développent donc d'autant plus. Donc c'est des choses un petit peu en cascade, des phénomènes en cascade et qui ont pour source la problématique de la gestion des déchets de l'homme.
Donc finalement la présence de la ville de Marseille là toute proche, puisqu'on est, on est juste à côté, a augmenté la population de goélands par l'intermédiaire des décharges, pour essayer de résumer, et l'introduction des lapins par les Marseillais sur ces îles a été favorisé par les plantes qui poussaient grâce à l'apport de matière organique. Finalement, ces îles, elles sont urbanisées. On a ces animaux, ils sont urbains là. Ces animaux, c'est étrange, quoi. On n'est pas dans un.
Oui, il y a un impact très important de l'homme. Et encore, on n'a pas parlé de la fréquentation touristique. Il y a notre problème aussi à gérer. Mais c'est vrai que c'est l'impact de l'homme sur les îles est très important. En plus, les îles, à la base, ce sont des systèmes écologiques qui sont des systèmes fermés, qui sont des systèmes très fragiles, où il y a des chaînes alimentaires réduites, etc. Et la moindre petite perturbation engendre des catastrophes écologiques très importantes. Vous introduisez le rat sur une île, peut-être ça va pouvoir engendrer la disparition de plusieurs des espèces d'oiseaux, par exemple. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, au niveau, entre autres, de la conservation de certaines espèces végétales et des oiseaux marins.
Et ce que vous venez de dire vaut pour Riou, mais ça vaut aussi pour le Frioul, c'est le même genre de problématique?
Ça vaut également pour le Frioul, on retrouve les mêmes espèces, c'est-à-dire les rats et les lapins. Il y a beaucoup moins, la population d'oiseaux marins est beaucoup moins importante que sur l'archipel de Riou, mais on mène les mêmes actions que sur Riou, donc dératisation. Par contre, on ne fait pas de délapinisation comme sur Riou à l'heure actuelle. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Parce que les îles sont, comme sur Riou, ont une superficie trop importante pour pouvoir éradiquer complètement les populations de rats et de lapins. Donc on ne fait juste que de la régulation des densités de rats sur les endroits où il y a ces colonies d'oiseaux marins, donc Puffin cendré et Océanie de tempête.
D'accord, mais à la différence du Frioul, ici sur Riou, il y a beaucoup plus de. Enfin, il y a pas du tout de population humaine. Donc peut-être qu'au Frioul, il y a plus d'hommes que de lapins.
Voilà. Mais ici déjà, sur Riou, il n'y a pas d'habitants permanents. Et sur on possède un petit cabanon qui nous permet d'avoir un petit peu de stocker du matériel et de dormir dans le cas d'opérations nocturnes, d'avoir un point. Mais sinon, c'est vrai que c'est un archipel qui n'est pas habité. C'est ce qui est très rare en France d'avoir un archipel sans aucun habitant permanent.
C'est le seul archipel.
C'est le seul archipel en France qui n'a pas d'habitant permanent. Et bon, c'est vrai que vu la configuration des îles, contrairement au Frioul, la fréquentation ici est beaucoup plus marine. Donc c'est beaucoup des plaisanciers, des plongeurs, des pêcheurs, après des différents usagers, mais qui se concentrent plus sur le milieu marin, parce que sur le milieu terrestre, il n'y a rien, contrairement au Frioul, où vous avez des infrastructures qui permettent aux touristes de manger, promener.
Il y a également une réglementation sur Rioux, ouais, qui fait que la fréquentation terrestre est beaucoup plus limitée que sur le Frioul.
On vient d'arriver sur l'île de Rioux, milieu de l'archipel de Rioux, avec Lorraine Anselme et Jennifer Dabat qui s'occupent des îles de Marseille pour le CEP et en particulier des oiseaux marins. Jennifer, c'est ça?
Oui.
Et on est, juste la première chose qu'il faudrait dire, c'est qu'on est bien qu'on soit entouré d'eau ici face aux Calanques et avec la mer autour sur une île. On est sur un des endroits les plus secs de France, c'est
oui,
ça que tu disais?
C'est le site le plus sec de France avec très peu de précipitations. Et vent en brun et soleil, ensoleillement qui vraiment rythme la vie sur ces îles. Donc c'est vrai que souvent les gens considèrent ces îles comme des cailloux pelés sans vie. Ils savent plus ou moins qu'il y a des rats et un peu des chèvres sur Mayre, c'est la légende, c'est vrai. Mais ils ne savent pas par exemple qu'on a des populations, donc c'est-à-dire des groupements de familles d'oiseaux marins qui nichent sur ces îles. Donc, pour présenter les oiseaux marins, ce sont des oiseaux qui passent la majeure partie de leur vie en mer, qui sont complètement adaptés à la vie en mer, qui présentent tout un tas de caractéristiques. Leur corps est complètement adapté. Ils ont par exemple un plumage imperméable, des ailes longues et fines. Ce sont des oiseaux qui utilisent, même quand il n'y a pas de grandes tempêtes, alors bien sûr ils savent voler pendant les grandes tempêtes, mais ils utilisent les petits courants de surface au ras des vagues pour se déplacer. Et donc, ils passent la majeure partie de leur vie en mer. Ils pêchent, bien évidemment. Donc, il y a certaines espèces qui peuvent descendre à des profondeurs incroyables pour aller chercher le poisson, plusieurs dizaines de mètres. On a des records de 60 mètres de profondeur avec des petits appareils. Ça a été mesuré par des scientifiques, des petits profondimètres. Et donc, ces oiseaux ne peuvent pas, bien évidemment, nicher en mer. Donc, ils viennent à terre. Donc, ils trouvent les îles, qui sont des coins en général tranquilles et qui sont finalement le premier espace terrestre qu'ils rencontrent pendant leur voyage en mer. Et ils viennent, les puffins et les oussanites. Donc les puffins, on dit que souvent, ce sont des petits albatros de Méditerranée, c'est la même grande famille. Et ils viennent faire leur... ils nichent en fait, donc ils pondent leurs œufs et élèvent leurs poussins dans ce qu'on appelle des terriers, qui sont en fait constitués de cavités naturelles, donc failles, fissures, blocs dans les rochers, etc. Et alors ce sont des oiseaux qui sont assez particuliers parce qu'ils ne pondent qu'un seul œuf. Ils ont une stratégie de reproduction, c'est-à-dire une façon de grossir leur famille particulière. C'est-à-dire qu'ils vont pondre un seul œuf, mais ils vont s'en occuper pendant longtemps, pendant 3, 4, 5 mois en fonction des espèces. Et le poussin va être nourri. Alors les parents vont faire des allers-retours en mer, souvent pendant de très longues distances. Ils peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres dans la journée pour aller chercher leurs poissons dans des secteurs riches en fait en poissons. Et donc souvent on dit d'ailleurs que ce sont les compagnons des navigateurs et des pêcheurs, parce que c'est ces personnes-là, c'est ces gens-là qui les croisent dans la journée. Et comme ils ne reviennent à terre que la nuit, souvent ils sont méconnus des gens parce qu'on n'a pas l'occasion de les rencontrer.
Ooh. Donc au départ, sur Ryu, il y a une colonie historique qui est d'une 150 couples qui était à l'est de Ryu, complètement à l'est de Ryu. Et petit à petit, avec l'augmentation de la source d'alimentation disponible par le développement des décharges à ciel ouvert, la colonie s'est développée et c'est petit à petit a envahi tout l'archipel de Ryu. Donc s'est déplacé, grosso modo, on va dire une colonisation de sud-est en nord-ouest, et de Ryu petit à petit est allé jusqu'à donc a pris l'île de Ryu, Plane, Jar, Mair et puis le Frioul. Donc là pour l'instant il n'y a qu'une petite partie du Frioul qui est encore à peu près épargnée, on va dire. Toute la pointe.
Disons que les secteurs les plus épargnés sur le Frioul sont les secteurs où l'on retrouve le plus de fréquentation terrestre. Les goélands s'installent d'abord sur les pointes, les secteurs les plus reculés des îles, et petit à petit, par manque de place, commencent à envahir les secteurs où l'on retrouve la fréquentation. Et les seuls secteurs épargnés à l'heure actuelle sur le Frioul sont les secteurs où il y a vraiment la fréquentation terrestre, donc une source de dérangement, on va dire, pour les goélands. Mais c'est vrai que sur le Frioul, on fait des recensements de goélands. Le CEP organise tous les 5 ans un recensement de la population de goélands sur les îles de Marseille. Donc il a eu lieu la dernière fois en 2005. En 2000, on avait estimé la population du Frioul à 4000 couples. Et en 2005, on en est à 8000 couples.
Voilà, ça a doublé. Parce qu'en fait, sur Ryu, en 2000, on avait déjà une population qui saturait sur l'île. Et les chiffres ont très peu augmenté entre 2000 et 2005, parce que de toute façon, ça s'était saturé. Alors que sur Frioul, il y avait encore de l'espace disponible. Donc on a eu en 5 ans vraiment ce doublement de la population. Et donc aujourd'hui, donc, entre le début du siècle où il y avait une centaine de couples, aujourd'hui, enfin le début du siècle dernier, puisque maintenant 2006, aujourd'hui, les derniers recensements de 2005... annonce 25 000 couples de goélands, et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une véritable crise du logement, et c'est pour ça aussi que le goéland se rabat de plus en plus sur la ville de Marseille, sur les toits des immeubles. Les toits terrasses, c'est l'endroit parfait pour les goélands, parce que comme disait Lorraine, au départ ils viennent sur les sites où il y a peu de monde, mais petit à petit ils s'habituent. C'est une espèce qui est très opportuniste, qui peut faire son nid un peu n'importe où, s'alimenter un peu avec n'importe quoi. Et qui actuellement crée des nuisances. Donc les Marseillais commencent à prendre conscience des problèmes parce que ça commence à créer des nuisances sur la population, mais c'est vrai que les nuisances sur le milieu naturel, ça fait déjà un bon moment que ça dure, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'il y a des problèmes dus aux goélands. Alors ce que je voulais dire aussi, c'était deux choses. Première chose, donc, c'est que les 25 000 couples de goélands, ça représente la moitié de la population française de goéland lecoffé. Donc c'est l'espèce, ça s'appelle goéland lecoffé, parce qu'il y a différentes espèce de goéland. Et la deuxième chose, c'est que le goéland lecoffé est une espèce protégée. Et est une espèce qui est problématique à l'échelle de la ville de Marseille, qui est en surpopulation sur les îles de Marseille, mais qui, à l'échelle de l'espèce, n'est pas une espèce en surpopulation, pas un problème. Bon. Et donc il y a de nombreuses personnes qui nous disent « Mais pourquoi vous ne faites pas de la régulation de goéland, tir à vue, ce genre de choses ?» Et il faut savoir que, bon, d'une part, c'est une espèce protégée, donc toute intervention sur une espèce protégée demande des autorisations. Et d'autre part, il y a un phénomène qui est très simple, c'est que le goéland, l'individu, en prenant de l'âge, étend son territoire. petit à petit. Ça devient un petit peu le vieux dominant, on va dire, et prend son territoire de plus en plus grand. Donc si on arrive et qu'on élimine ce goéland-là, ben, peut-être si c'est un vieux goéland qui avait une certaine surface de territoire où il n'y avait qu'un seul couple, à la place, il y a deux, voire trois, voire quatre couples qui vont venir s'installer. Donc ça ne va pas régler le problème. Le problème, il faut vraiment le régler à la source, et la source, c'est les décharges.
Donc en temps normal ici, on peut à peine se déplacer parce qu'il y a trop de gabions.
Ben, c'est vrai que là, c'est très calme puisque les gabions sont partis en migration. Mais oui, effectivement, en dehors de la période de migratoire juillet-août, c'est un peu une barrière naturelle aux visiteurs. Et puis nous, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y en a des centaines et des centaines qui nous tournent autour et qui crient.
Est-ce qu'ils sont dangereux? Enfin, ils sont agressifs,
ils ont tendance à vouloir beaucoup impressionner. Rarement, ils vont attaquer vraiment. Ça nous arrive de temps en temps de se prendre un coup de bec. Mais c'est vrai que, bon, allez, une fois sur dix, ils tapent. Mais en général, c'est plus pour impressionner, pour faire peur. Parce qu'on les dérange, évidemment, on est chez eux.
Un coup de bec d'un gabion, ça fait mal?
Oui, ça fait très mal.
Je pense que c'est mal à lui aussi.
Oui, mais on s'est demandé, on a une théorie, on s'est demandé en fait si quand il tapait, s'il le faisait vraiment exprès, ou s'il voulait juste faire des piquets pour nous impressionner, et que de temps en temps, ben, il rate son coup et il nous touche vraiment.
C'est assez impressionnant parce que généralement, ils attaquent par derrière en plus, ils sont assez lâches.
Oui, avec un cri très aigu, contrairement au raou-raou de d'habitude. Ils ont un cri d'attaque et... Ah, c'est impressionnant. Donc, quand on marche, par exemple, sur des crêtes, certaines opérations, on circule le long des crêtes, et qu'on est un peu en équilibre, il faut avoir un certain contrôle de soi face à l'attaque du goéland et au cri strident.
Ne pas paniquer.
Non, voilà, garder le contrôle.
C'est les vacances.
C'est les vacances pour les collègues, pour nous. Ben, on sort quand la fréquentation touristique arrive.
Alors, quand tu parles du territoire du goéland, c'est-à-dire qu'il passe une partie importante de son temps sur terre, en fait, sur des espaces terrestres. Donc les goélands qu'on voit la journée à Marseille, finalement, ils habitent ici, ils dorment ici.
Oui, tout à fait. Ils font des allers-retours. On voit d'ailleurs souvent un peu le matin et le soir des allers et des retours entre les îles et le continent, entre guillemets, Marseille. Mais l'endroit où ils nichent, bon, sauf pour les goélands qu'on appelle goélands urbains qui font leur nid sur les toits des maisons. Et sinon, les goélands, initialement, est une espèce qui niche sur les îles et qui est une espèce côtière, c'est-à-dire c'est pas un oiseau marin, c'est pas un oiseau qui passe la majeure partie de son temps en mer. Lui, il est entre la terre, les îles ici, parce qu'il niche sur les îles Marseille, et les décharges où il va trouver sa source de nourriture.
Alors, on voit bien le genre de désagrément que pose la surpopulation de gabiens à Marseille, dans la ville, aux Marseillais et tout ça, mais sur l'île ici, là, quel est le problème de cette surpopulation de gabiens? Parce que là, on voit autour de nous, il n'y a quand même pas, j'en vois pas tellement. Quel genre de problème ça pose pour l'écosystème?
Alors là, on a beaucoup de chance parce que c'est la période de calme, donc c'est la période où les goélands sont partis, migrent pendant les deux mois juillet-août, les deux mois les plus chauds. Mais le reste du temps, si vous venez en septembre ou si on était venu un peu plus tôt, on aurait pu entendre les cris et on sent vraiment une présence très très forte. Ça, souvent, il y a des gens qui viennent avec nous qui nous disent mais ça rappelle le film d'Hitchcock, Les oiseaux, parce qu'on se sent vraiment oppressé. Des centaines de goélands qui tournoient au-dessus de nos têtes, c'est assez impressionnant, qui crient, qui peuvent être agressifs, parce que toute espèce en surpopulation développe une agressivité importante. Ce sont des espèces au niveau du milieu naturel qui posent différents problèmes, donc qui ont d'abord un impact sur qui enrichissent en fait les sols en ramenant des tas de matières organiques des décharges.
Mais également par les fientes.
Et également par les fientes, oui, ça c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure aussi de dire, que en fiente, les fientes acidifient et enrichissent le sol, ce qui provoque un déséquilibre en fait de la nature du sol et ce qui donc a un impact fort comme sur les communes. communauté végétale. Donc souvent, ce sont les espèces autochtones, les espèces naturellement présentes sur le site qui en pâtissent, puisque changement de nature du sol dit elles ne sont pas forcément capables de s'adapter. Et souvent, ce sont les espèces opportunistes, nitrophiles, qui en bénéficient et qui développent des systèmes, donc, qui développent des feuillages, des pores importants, et qui donc augmentent la biomasse végétale et donc qui augmentent la source d'alimentation pour les rats et les lapins. Et les rats et les lapins vont avoir tout un tas d'impacts différents. Donc le rat, tout d'abord, c'est un grand prédateur d'œufs et de poussins d'oiseaux. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les oiseaux marins, qui sont des oiseaux qui passent la majeure partie de leur vie donc, en mer, qui reviennent à terre pour les besoins de la reproduction, et qui ne sont pas du tout armés pour se défendre contre les rats. Enfin, les œufs, de toute façon, et les poussins, les petits poussins sont très, très vulnérables. Donc ça, c'est le premier impact des rats, puisque donc, le rat va énormément se développer avec, si je reviens en arrière, avec le développement des ressources alimentaires disponibles, bah, c'est le développement exponentiel de la population de rats. Donc impact du rat sur les œufs et les lapins, et les œufs et les poussins, pardon, et le lapin. L'autre impact du lapin, c'est que en fait, les lapins creusent des galeries, comme on le sait, et les oiseaux marins sont des oiseaux qui nichent dans des terriers ou dans des zones, dans des cavités naturelles. Et sur les sites sableux, le lapin, en creusant des galeries, va provoquer l'effondrement du terrier, donc avec en général destruction de l'œuf et destruction ou même ça peut provoquer la mort du poussin ou de l'adulte. Et même si ça ne provoque pas la mort du poussin ou de l'adulte, le fait de détruire le terrier, ça va en fait provoquer ce qu'on appelle entre guillemets le divorce du couple. Ce qu'on sait que ce sont des oiseaux, les oiseaux marins, donc les puffins et les océanites, qui sont des oiseaux qui trouvent un partenaire et qui restent avec tout au long de leur vie. Ils sont très fidèles à leur partenaire, mais aussi à leur site de reproduction. Donc tous les ans, ils vont revenir avec le même partenaire sur le même site de reproduction pendant de nombreuses années. Puis ce sont des oiseaux qui vivent 30, 40 ans en fonction des espèces. Et donc, si il y a destruction du terrier, cela peut provoquer un divorce du couple. Et comme ces oiseaux n'ont pas l'habitude, ça provoque une perturbation importante et c'est pas sûr que l'année d'après, il retrouve un partenaire, qu'il retrouve un terrier, etc., etc. Donc, ça a un impact très important sur l'ensemble de la vie du couple et puis du futur poussin.
Jeune goéland, île de Ryu.
Vous avez en face de nous donc la face nord de Ryu, les falaises, et on a des jeunes cormorans huppés de Méditerranée donc, qui viennent pendant la période estivale, qui restent là pendant quelques mois. Et donc au niveau des couples nicheurs, donc le cormoran huppé c'est une espèce qui niche en hiver. On a 5 couples qui nichent actuellement, une petite population. Et par contre en été on a une cinquantaine de jeunes qui viennent passer l'été sur les falaises. Donc on peut bien les distinguer parce que les jeunes ont le ventre tout blanc.
Alors celui qui vient de s'envoler là, qui volait au ras de l'eau, ça c'est un cormoran huppé.
De Méditerranée, oui.
Avec un long cou.
C'est ça.
Un ventre blanc pour
les jeunes. Un ventre tout blanc pour les jeunes. Et donc qui ressemble beaucoup au grand cormoran, mais qui est plus petit et qui a la particularité pour les mâles en période de reproduction d'avoir une petite huppe sur la tête, d'où son nom.
Là en fait c'est un jeune qui a un an déjà, donc il commence à être le plumage blanc pendant sa disparition pour prendre sa robe définitive qui est plutôt dans les tons noirs. Quoi. Ça, c'est un immature.
Et ceux-là, on les croisera rarement sur le littoral de Marseille. Il faut venir à Ryu ou sur les îles pour les voir.
Tout à fait, tout à fait.
C'est un peu à l'inverse des goélands qui ont tendance à partir remonter sur les grands lacs alpins pour l'été. Et là, c'est pour partir en vacances. Et là, c'est plutôt les cormorans huppés qui viennent en vacances à Ryu.
Ils viennent d'où alors?
C'est plutôt de Corse, essentiellement de Corse.
Est-ce qu'ils viennent parce qu'il n'y a plus les goélands?
Non, c'est la biologie de l'espèce qui est comme ça. Et c'est vrai que les adultes, ils sont... il y a des jeunes qui sont issus des adultes qui ont pondu et puis des jeunes qui viennent de Corse augmenter la population estivante.
Il n'y a pas vraiment de compétition entre les deux espèces hein, parce qu'il n'y a pas de dérangement quand deux individus sont à côté.
Ils n'ont pas le même habitat. Le cormoran niche vraiment en falaise dans des rochers et le goéland bon, va chercher plutôt des endroits plats.
Des pêcheurs avec leur parasol sur le Zodiac.
Alors Jennifer Dabat, donc le CEP où tu travailles, le Conservatoire Études des écosystèmes de Provence, dépend du programme européen LIFE.
Non, en fait, c'est le Conservatoire d'études des écosystèmes de Provence. En fait, c'est une association, donc loi 1901, de protection de la nature, une association régionale qui a pour objectif la gestion, la protection, la conservation de sites naturels en PACA. Et au niveau de toutes ces missions, le Conservatoire développe différentes actions et mène différents projets. Et le programme LIFE Nature, qu'on développe sur les oiseaux marins, qui est un programme européen, est porté par le CEP. Et sur la base d'une grosse partie de financement européen, mais aussi de financement des collectivités locales, on développe donc un programme de conservation des populations d'oiseaux marins. Donc c'est le CEP a en fait recruté une équipe spécifique au LIFE qui se joint aux équipes de gestion des archipels de Riou et du Frioul pour mener à bien toutes les actions de conservation des oiseaux marins.
Et alors ce travail-là qui est en grande partie un travail concret d'observation effectivement de bon voilà poser les cages à lapins, prendre soin de toutes ces populations-là, etc. A aussi un versant scientifique au CEP. Vous travaillez avec deux laboratoires du CNRS.
Oui, enfin, nous on travaille avec travaille avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle le CEBC, c'est le Centre d'études biologiques de Chizé, qui se trouve en Poitou-Charentes, mais qui a dans lequel travaille un ponte oiseau marin qui s'appelle Vincent Bretagnol. Et donc, au niveau du programme LIFE, nous avons monté un partenariat avec le CNRS. Et le CNRS, en fait, est ce qu'on appelle notre assistant scientifique, c'est-à-dire va nous aider à développer, à mettre en œuvre les protocoles de suivi et d'études des populations d'oiseaux marins. Donc après, nous menons un programme LIFE sur les îles de Marseille. Il y a également un programme LIFE sur les oiseaux marins sur les îles d'Hyères. Et eux aussi également travaillent avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle l'IMEP. C'est l'Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie. Et pareil, donc les scientifiques et les gestionnaires travaillent ensemble pour la conservation des espèces. Pour refaire un petit peu l'historique... L'archipel de Riou a été acquis par le Conservatoire du littoral en 1992 et donc en classé réserve naturelle depuis 2003. Et l'archipel du Frioul est propriété de la ville de Marseille depuis les années 70.
Oui, à peu près.
Et a été classé donc parc maritime des îles du Frioul, enfin classé, je sais pas si on peut dire classé, mais...
En fait, le parc maritime des îles du Frioul, c'est un label instauré par la ville de Marseille. C'est le seul parc maritime en France. Ça n'a pas vraiment une protection pure et dure, on va dire, comme une réserve. Par contre, la ville de Marseille a mis en place un arrêté municipal sur les espaces naturels qui réglemente la circulation et les usages. Donc, on va retrouver les mêmes choses qu'on va retrouver sur un espace naturel protégé, c'est-à-dire interdiction de faire du bivouac, du camping, de faire des feux, les chiens doivent être tenus en laisse, le vélo est interdit. Toute une réglementation qui permet de limiter les usages
au maximum pour les impacts
sur le milieu naturel.
Alors, vous deux qui êtes deux professionnels de la gestion des espaces naturels à Marseille, cette réglementation-là sur le Frioul vous semble pour l'instant quelque chose de suffisant ou à terme il vous semble qu'il faudra protéger davantage le Frioul ?
Alors, sur le Frioul, la réglementation est très récente, comme vous l'avez dit Jennifer, elle date de 2003. Donc jusqu'à cette date-là, les gens pouvaient venir sur le Frioul et faire tout ce qu'ils voulaient. C'était vraiment un espace de liberté totale. En 2003, donc, cette réglementation est apparue. Nous avons commencé en même temps à faire de la surveillance et de la sensibilisation. Il y avait énormément de cas de campeurs, de bivouaqueurs, de feux, de chiens non tenus en laisse. Et au fil des années, il faut savoir que le Frioul est fréquenté par un public d'habitués. C'est énormément de Marseillais qui viennent sur le Frioul. Au fil des années, on s'est rendu compte que les gens assimilaient de plus en plus cette réglementation et que les infractions à la réglementation étaient de moins en moins courante, on va dire. Donc ça, pour l'instant, c'est suffisant. Après, il y a également le projet de rétrocéder les îles au Conservatoire du Littoral. La ville de Marseille voudrait les rétrocéder au Conservatoire du Littoral. C'est en cours, c'est pas encore fait. Et ça, ça permettrait notamment, d'une part, de faire une réglementation beaucoup plus stricte sur les espaces naturels, de pouvoir avoir un pouvoir de police, chose que, contrairement à Rioux, nous n'avons pas à l'heure actuelle sur le Frioul, et également de pouvoir aussi bénéficier de financements supplémentaires pour la protection de la nature, notamment la taxe Barnier qui serait prélevée sur les navettes et qui serait transmise à la gestion des espaces naturels.
D'accord.
Voilà, et concernant les archipels en général, pour l'instant, la protection concerne le milieu terrestre. Et c'est vrai que ce qui serait intéressant, ce qui est très important, c'est d'arriver à développer cette protection sur le milieu marin. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune protection du milieu marin des îles de Marseille.
Alors que la fréquentation marine est très importante.
Oui, ça c'est vrai que la fréquentation, au niveau des chiffres... Rioux, étant donné qu'il n'y a pas de navette, ça limite un petit peu la fréquentation, parce que les gens ne peuvent pas venir s'ils n'ont pas d'embarcation personnelle. Et c'est 5-6 000 visiteurs par an. Le Frioul, c'est...
500 000.
Oui, voilà. C'est...
Donc c'est quand même beaucoup plus important.
On aurait presque pu faire un comptage aujourd'hui.
Ouais, mais là, c'est un peu... C'est beau, hein.
Encore, on voit bien le ventre blanc là, il n'y a pas de doute. Et Jennifer, tout à l'heure, vous expliquiez que les oiseaux marins pouvaient plonger très profond pour aller chercher du poisson. C'est notamment le cas des cormorans huppés qui peuvent plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur.
C'est pour ça qu'ils se positionnent en hauteur face à la mer pour avoir une vue.
Voilà, tout à fait. Ils ont, en fonction des espèces, ils ont différentes stratégies. Soit ils partent de très très haut, ils font des plongeons en piqué, ça c'est beaucoup le cas du foot bassin, on connaît bien le foot bassin pour ça. Soit ils volent au ras de l'eau et ils plongent au dernier moment, mais comme ils ont des pattes palmées, ils peuvent tout à fait se déplacer sous l'eau et presque voler sous l'eau en fait, en donnant des coups d'aile avec leurs pattes. Et puis il y en a d'autres qui font un peu le canard, il y a des espèces qui sont sur l'eau, qui jettent un coup d'œil et puis qui plongent quand ils voient des poissons passer dessous, ça c'est le cas du goéland par exemple.
Il n'y a pas de souci de manque de matières premières pour eux ? Enfin, y a des poissons ?
Alors ça dépend des sites et c'est vrai qu'il y a plusieurs sites en Méditerranée et dans le monde même, puisqu'on a eu des échos dans les mers australes, d'endroits où le réchauffement climatique provoque un déplacement des populations, un déplacement des bancs de poissons, parce qu'en général, les bancs de poissons, c'est vrai, aiment bien il y en a qui sont pas mal adaptés à des mers plus froides, donc ils vont se déplacer et les oiseaux vont devoir aller de plus en plus loin à chaque fois pour aller chercher la nourriture, ce qui peut les épuiser et ce qui peut causer des échecs de la reproduction de l'année, quoi. C'est... Le cas, entre autres, pour... Il y a Kerguelen et à côté des Kerguelen, les îles Crozet. Voilà, on observe ça chez les albatros et les pétrels géants.
Et ici, autour de l'île de Rioux et de Marseille, de manière plus générale?
Là, je ne peux pas vous dire, on n'a pas observé de phénomène particulier pour l'île de Rioux.
Sachant que, par exemple, les puffins que vous voyez sur les îles de Marseille peuvent aller jusqu'en Corse pour ramener de la nourriture. Sont observés en Corse, vont jusqu'en Corse chercher du poisson et reviennent le soir dans leur terrier avec. Donc ils voyagent énormément.
Ouais. Des grands voyageurs, des grands navigateurs.
Et le bagage, il sert à quoi ? Pourquoi vous baguez les populations ?
Baguer les oiseaux, ça veut dire leur poser une bague. Donc c'est un petit anneau sur lequel il y a un code, un numéro, et qui permet en fait d'identifier les différents oiseaux, les différents individus. Et ça nous permet de suivre les populations d'oiseaux. Donc ça nous permet de savoir, par exemple, c'est ça qui nous a permis de savoir, entre autres, que d'une année sur l'autre, c'était toujours le même couple qui revenait dans le même terrier. Ça nous permet, quand on bague aussi les poussins, ça nous permet de savoir si le poussin revient dans son terrier de naissance ou à proximité, ce qui est le cas souvent pour les mâles, ou les femelles, on va voir par exemple qu'elles vont passer peut-être plus d'un archipel à l'autre. On va pouvoir aussi, puisqu'on a l'année de bagage, quand on bague des poussins, on connaît donc leur année de naissance et puis on va peut-être les retrouver ailleurs pendant une migration ou s'ils reviennent sur un terrier X années plus tard. Donc on va savoir à peu près la longévité des individus.
Comme ça qu'on a pu voir d'ailleurs des poussins bagués dans les années 70. On les a retrouvés ces dernières années à l'endroit où ils étaient nés.
Quelle population ?
Des puffins cendrés. Des puffins cendrés qui avaient été bagués dans les années 70 sur l'archipel du Frioul, Poussin, et qu'on a recontrôlé, parce qu'on les contrôle également quand on, quand on va baguer, on recontrôle les individus qui ont déjà une bague. Ça nous a permis de constater que des oiseaux qui avaient été bagués poussins dans les années 70 étaient revenus nichés dans leur terrier d'origine.
Ce qui veut dire que la durée de vie, la longévité d'un puffin cendré,
peut aller d'une trentaine d'années, voire 40 ans. Oui, 30 ans. Nous, on a retrouvé un oiseau qui avait 30 ans.
Et c'est la longévité moyenne des oiseaux marins ou ils ont des longévités différentes ?
Ça dépend. Chez les albatros, les puffins, qui font partie de la famille des albatros, 30 ans, c'est une bonne moyenne. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne pondent qu'un seul œuf par an. Les oiseaux marins, donc le puffin, pondent un seul œuf par an parce qu'il a une... C'est un peu compliqué à expliquer.
Il élève pendant longtemps et comme il vit longtemps, il va pouvoir faire plusieurs œufs durant plusieurs années. Alors que d'autres oiseaux ou d'autres animaux en général qui vivent que 2-3 ans, ils vont faire plus de petits, 7, 8, 9, j'en sais rien, ça dépend. Les lapins, les rats par exemple, ça peut aller très loin. Mais eux vont vivre que 2-3 ans, donc ils ont intérêt à faire tout en bloc d'un coup et pas à étaler dans le temps.
Alors en effet sur l'île de Rio, on est dans un environnement assez caillouteux. Comme c'est une île, les espèces, j'imagine, dans la flore sont relativement limitées aussi. Il y a un tamaris à l'ombre duquel on s'est installé qui doit être une espèce importée aussi.
Oui,
ça c'est vous qui avez mis ça ici.
Planté.
Il était bien avant nous.
Oui, il était bien avant nous. Mais
c'est l'homme.
Oui, c'est l'homme.
Oui, c'est l'homme qui a porté ce tamaris. Sinon, vous voyez ici toute cette végétation un peu ponctuée
par
plaques. Ce sont des lentisques, des buissons de lentisques. Alors c'est très rigolo parce que c'est une espèce sur le continent qui fait 400 mètres de haut. Et ici, ça dépasse vraiment très rarement 1 mètre de haut, parce que ce sont des espèces qui poussent contre vent et soleil. Et du coup, leur croissance est vraiment limitée, parce qu'en général, à chaque fois, tous les petits bourgeons sont complètement brûlés par le soleil. Donc, ils ont tendance plutôt à s'étaler comme ça, en plaques. Et on a certains pieds de lentisques qui sont plus que centenaires, mais qui ne dépassent pas pour autant un mètre de haut. Et on a des photos satellites, des photos aériennes, qui datent des années... 40-50, et on voit que les taches de végétation ont à peu près la même surface. Ça veut dire que la croissance est hyper lente.
Et est-ce que les nitrates, l'excès de nitrates lié à la surpopulation des goélands sur l'île a une influence sur la flore ?
Oui, bien sûr.
Laquelle ?
Bien sûr. Donc il y a des espèces qui sont... comme je disais tout à l'heure, pour lesquels la croissance est limitée, d'autres pour lesquels la croissance est favorisée. Donc, si on parle vraiment uniquement problématique goéland, on va avoir par exemple le lavater maritime. On a sur le Frioul des pieds qui sont complètement pollués, complètement, qui sont en train de mourir parce que le goéland s'est installé à côté et comme j'ai dit tout à l'heure, en changeant la nature du sol, les végétaux ne s'y retrouvent plus et sont complètement, finissent par mourir en fait. Et d'autres plantes qui à la base sont des plantes qu'on peut trouver naturellement sur l'île, mais en tout petit pied, c'est le cas du chardon-marie par exemple. C'est une espèce qu'à la base on trouve sur l'île, mais très localement et qui forme des pieds assez petits. Et là, avec l'enrichissement en nitrate du sol, on a des pieds qui font plus d'un mètre de haut, avec des feuillages énormes et qui du coup ne laissent plus de place aux autres espèces locales.
Pour ce qui est de la flore, il y a 150 plantes, c'est ça, je
350.
Crois 350. Sur l'archipel de Rio.
Sur l'ensemble des archipels. D'accord. De Marseille.
Dont une vingtaine protégées par la loi. Mais on retrouve sur les îles de Marseille, donc aussi bien sur l'archipel de Rio que sur l'archipel de Frioul, des plantes qu'on ne retrouve plus sur le continent, ou de façon très très localisée. C'est le cas par exemple, surtout sur le Frioul, de l'astragale de Marseille. Appelée communément coussin de belle-mère. C'est une plante, quand vous mettez la main, qui pique énormément. Et c'est une plante endémique au littoral marseillais. C'est-à-dire c'est une plante que l'on retrouve que sur le littoral marseillais et qui, du fait de l'urbanisation et de la forte fréquentation sur le continent, a tendance à disparaître de plus en plus. Et c'est vrai qu'on la retrouve maintenant plus que sur le Frioul. Il y a encore quelques stations très localisées sur le continent, mais les plus beaux individus se retrouvent sur l'archipel du Frioul. Et il y a également d'autres plantes.
Il y a le lys des sables.
Il y a le lys des sables aussi. Qui
ça, c'est pas tellement le problématique goéland, en fait. C'est plus la problématique fréquentation, en fait. C'est une plante qui est lys des sables, donc, comme son nom l'indique, qui s'enracine dans le sable. Et donc, qui peut, la moindre personne qui passe et marche à côté, ça peut complètement. Ça déracine l'individu et le pied disparaît. Et c'est une espèce qui était sans doute présente sur le littoral. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, qui a complètement disparu et qu'on retrouve que sur les îles, dans les secteurs où il n'y a pas de fréquentation. Qui est une très belle espèce d'ailleurs, l'île des sables.
Qui a la particularité, contrairement aux d'autres espèces végétales des îles de Marseille, de fleurir en été.
De fleurir tard. Parce que si on peut, pour en reparler, il y a les espèces, donc, comme je disais tout à l'heure, à la base sont des espèces qui poussent contre vents et en brun. Et donc ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir des pores, des masses de feuilles importantes, qui ne vont pas énormément se développer en hauteur et en largeur. Donc souvent ça fait des petites touffes et ils vont développer des adaptations morpho-anatomiques diverses. Alors on va avoir un système racinaire très développé sur plusieurs mètres de système racinaire. On va avoir des feuilles qu'on dit crassulescentes, donc pour stocker de l'eau. On va avoir tout un tas d'adaptations comme ça. Et donc c'est des petits bijoux de l'évolution, on va dire, qui sont adaptés à des conditions très particulières. Et c'est vrai que par contre la moindre perturbation d'origine extérieure, ils seront pas armés pour répondre à ça, en fait.
Je sais pas s'il faut le dire, ça. La pub Colgate de la...
C'est vieux, ça.
La personne avec la rose entre les dents qui plonge. Elle était tournée ici, c'est très vieux. Maintenant, il n'aurait plus l'autorisation de tourner une publicité comme celle-là.
Où il y a des poupons ? Très bien. Mais bon.
Il y a un éboulement ?
Ben, là, oui, c'est le site des gros blocs. Et c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un éboulement qui est resté figé, en fait, avec des pierres qui sont comme en équilibre, mais qui sont en équilibre depuis longtemps, qui ne risquent pas de tomber tout de suite. Mais c'est une curiosité assez rigolote.
Donc une énorme devant.
Oui, une énorme devant, sous laquelle on peut passer, d'ailleurs, pour accéder au site. Et tout en haut, ici, vous avez un passage pour passer en face nord de Rio.
L'accès est autorisé ici, mais nous, dans le cadre de la gestion, quoi. secteurs ici qui sont plein sud. Pas plein sud. On explose le soleil là-haut, là, c'est intérêt à avoir de l'eau.
Il y a un journaliste au début du siècle qui a fait tout un tas de reportages nature sur Marseille et les environs, un reportage écrit dans une gazette. Et il était venu sur Riou, il avait une autorisation, il avait débarqué au gros bloc. Et dans ses écrits, c'est raconté, c'est très rigolo, que la moindre pierre risquerait de provoquer un éboulement, il jouait sa vie, c'était très rigolo comme c'était écrit.
Puisque cette série d'émissions sur Marseille est placée sous le, cette série de promenades sur le territoire de la ville est placée sous le signe de l'écologie, je vais te poser la question que je pose à tous les invités de l'émission, de la série, c'est de nous donner ta définition à toi de l'écologie ou de nous dire un peu ce que ça évoque pour toi ou ce que ça évoque pas. En fonction de ton parcours, peut-être tu peux nous rappeler d'où tu viens. Tu as fait de la biologie, tu as travaillé un peu au muséum à Paris, c'est ça?
Oui, j'ai fait un passage au muséum d'histoire naturelle. Et j'étais pas sur les oiseaux marins, je travaillais sur un autre groupe, sur plutôt des crustacés. Mais l'écologie, c'est une discipline qui est très vaste. Si on devait en donner la définition, enfin, il y a de très bonnes définitions dans les dictionnaires, mais... je crois qu'on peut simplement parler de l'étude du vivant et de tous les liens qui unissent différentes communautés animales, végétales, etc. Et qu'on peut aussi ajouter dedans tout ce qui est inerte, le substrat, les conditions environnementales. Enfin, on peut regrouper beaucoup de choses. Et c'est une discipline qui est très vaste. C'est pas évident du tout d'en faire le tour. Je crois qu'il y a peu d'écologues complets en France ou ailleurs qui existent. Et je crois que, mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que par rapport à la protection des écosystèmes, donc écologie, écosystème, racine, par rapport à la protection des écosystèmes, chacun peut mettre son petit grain de sable, sa petite pierre à l'édifice. Même pierre, c'est trop, mais disons, chacun peut mettre son petit grain de sable pour essayer de contribuer à la conservation des espèces et des espaces naturels. Et je crois qu'en fait, il faut, si on est sur écologie, écosystème, on peut parler aussi d'éco-citoyenneté. Voilà, donc tout le monde peut faire un peu, pas d'écologie au sens scientifique, mais tout le monde peut être au moins éco-citoyen avec quelques informations et un peu de bonne volonté.
Donc là, nous arrivons dans la calanque des Contrebandiers, qui est un petit paradis aux eaux turquoises et à l'environnement très minéral, avec une calanque complètement encastrée dans des grosses failles rocheuses, très claires. Et donc ça, c'est une calanque qui s'appelle le calanque des Contrebandiers tout simplement parce que c'était un endroit, comme c'était un endroit qui est très abrité et où les gens qui faisaient de la contrebande venaient se cacher pour échapper
oui, y a des
aux forces
coins,
de l'autorité.
Il y a des coins et des recoins.
Exactement. Donc voilà, ici c'est un secteur qui est autorisé pour le mouillage à l'entrée de la calanque, mais pas pour le débarquement parce que c'est un site qui est vraiment fragile. Et voilà. Mais les plaisanciers peuvent quand même jouir de la vue de cette calanque.
C'est souvent une calanque un petit peu... Il y a pas mal de...
De fond.
Pas mal de la pollution, pas mal de débris au moins qui flottent, parce qu'elle est vraiment exposée plein mistral. Donc en général, c'est rare que l'eau soit si calme ici.
Le vent ramène quelques bouts de plastique.
Voilà, on trouve un peu les quelques sacs plastiques qu'on voit au fond, c'est ça. Ouais, c'est...
Savoir que sur les îles de Marseille, on retrouve énormément de macro-déchets, donc de plastique dans les criques. C'est pas, la plupart des gens pensent que c'est des déchets laissés par les personnes qui fréquentent les îles.
Mais la plupart du temps, non, c'est plutôt des déchets ramenés par la mer et par les courants qui viennent de Marseille, voire des décharges situées aux périphéries de Marseille.
C'était une promenade sur l'archipel de Riou en compagnie de Jennifer Daba et Lorraine Anselme du CEEP, Conservatoire Études des Écosystèmes de Provence, gestionnaire des archipels de Riou et du Frioul. Marseille, Ville Nature, une série de promenades écologiques et sonores proposées par Baptiste Lanaspez dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006. Prochaine promenade, samedi 19 août à 13h10 dans les Calanques, en compagnie de Denise Ballant-Santini du CNRS et du Centre d'Océanologie de Marseille, ainsi que Fabrice Aucher, directeur adjoint du GIP des Calanques. Vous pouvez également retrouver les émissions sur le site www.grenouille888.org. Bonne promenade.
C'est plus doux.
Ouais, c'est mieux.
Ouais.
Comme parfois.
C'est vrai qu'il y a vraiment un bel écho.
Il y a une belle
acoustique.
Ah putain, c'est terrible.